André Gide, sermon de carême. Un mot charmant, bien naïf, est celui de cet enfant assis inerte sur son banc d'école et qu'un visiteur interroge. « Tu travailles donc pas, mon petit ami ?»«
Non, monsieur. »«
Alors que fais-tu là ?»«
Ben, j'attends qu'on sort. »
Eh bien, ce mot qu'on ne peut entendre sans sourire, il me fait choir en mélancolie quand je songe à quantité de grands garçons qui ont 25 ans à cette heure et qui, continuant la tradition du moutard de l'asile, bien portant mais sceptiques, sans foi, sans feu, sans but, ennuyés, inutiles, ennuyeux, semblent plantés dans la vie uniquement pour attendre qu'on sort. La jeunesse a-t-elle été toujours ainsi? J'ai l'honneur d'être admis dans l'intimité de quelques sexagénaires qui m'émerveillent par la vitalité physique et intellectuelle qu'ils développent incessamment. Quand une heure sombre m'arrive, il me faut fuir en hâte les hommes de mon âge et surtout l'entretien stérile de plus jeunes. C'est près de quelques grands aînés que je me réfugie. Difficilement, en effet, trouverai-je autre part en été un géant de belle humeur qui, comme l'illustre professeur Pajot, m'entraînait toute une après-midi sur les flots jaseurs et ombragés de la Marne, à force d'aviron. L'hiver, un viveur intéressant de causeries prestigieuses, enthousiaste et consolant, comme Molin, dont l'esprit, l'appétit et le cœur sont toujours en éveil. Ou même en tout temps un espiègle de l'autre futaie, comme Nadar, qui, fatigué de photographie, de dessin, d'aérostation et de littérature, se repose en bondissant comme un clown à travers ses ateliers, défaisant de minute en minute le nœud de ma cravate avec les cris de joie d'un écolier lâché. Et qu'on ne dise point que ce sont là des cas spéciaux résultant d'organisations exceptionnelles. Il m'est revenu du courage, de l'espoir, de tous les anciens que j'ai connus. Les jeunes ont des vapeurs, des névroses, de l'ennui latent, des ironies clichés pour tout ce qui fut admirable, un vilain dégoût de l'effort, un rire de crécelle à tout idéal, une avide recherche du truc lucratif et rapide, une maîtresse en coopération, des vies solitaires. Mais d'où vient cette dégénérescence? D'une fabrication ruinée d'abord. J'entends bien que les rudes soldats de 92, au retour des batailles, devaient offrir à la fécondité de leurs puissantes épouses librement vêtues des arguments que l'on put égaler de leur échine fléchelie, les sous-préfets de l'Empire, accoîtés de leurs minces dames sanglées, de la nuque à la crinoline, en étroit corselet. De même, je ne saurais oublier que les nanas, dont tantôt l'histoire nous fut contée, ont triomphalement, aux applaudissements du dernier règne, inventé, vulgarisé, multiplié, quantité de pratiques peu ravigotantes pour la descendance de leurs adorateurs. Mais ce sont la fatalité dont on ne peut attendre un remède que d'un temps et d'une éducation nouvelle. D'ailleurs, un peu moins de muscles, de pourpre dans le sang, n'est point ce que je déplore uniquement dans la génération actuelle. Encore que la vaillance de la chair est avec celle de l'esprit une indéniable correspondance, on ne peut exciper de la fragilité des poumons pour absoudre un manque de souffle idéal, un dépérissement de l'entrain, de la verdeur gauloise. Un ardent poète regretté, Glatigny, oh, qui certes n'était point robuste, a néanmoins brûlé jusqu'au bout d'une belle flamme. Et si nous n'étions en proie à une école de découragement systématique, on pourrait peut-être encore se tirer d'affaire avec de violents dépuratifs. Malheureusement, Il y a parti pris d'indifférence lâche, de ramollissement hâtif. On ne voit en haut du pavé que rejetons de bourgeois et de banquiers, pâles de sucer leurs petites carnes, héritiers, fainéants, ignorants, railleurs. Et si l'on venait dire aujourd'hui, tel a bien mérité de l'humanité, et tous répondraient en chœur, oh le, faut pas nous la faire. La génération de 48, après l'écœurement d'une révolution ratée, pendant les loisirs débauchés de l'Empire, a commencé l'œuvre de dénigrement par dégoût, désespérance, peut-être pour s'excuser elle-même. L'habitude en est venue, la mode, l'usage, on l'a passé dans l'art et dans la science. Va pour la science, dont les analyses décevantes sont compensées par le bien-être des découvertes, mais pour l'art. L'art, qui doit être comme un baume appliqué proportionnellement sur les blessures de la science en perpétuelle démonstration du néant. L'art, peut-il abandonner sa mission sacrée, qui est de faire sans cesse éclore au champ désolé de la réalité, l'illusion, fleur éternelle qui parfume le monde et console de la vie. 1848, il est vrai, succédait à 1830, et dans l'ordre naturel des réactions, devait dédaigner la moisson de gloire que lui avaient léguée les devanciers, comme on voit aux années de récolte surabondante couler le sang de la vigne au ruisseau. Tant pis, je regrette les romantiques fureurs des anciens. J'eusse aimé mieux porter l'écarlate pourpoint de Gautier que le gilet de flanelle des éreintés de mon temps. Ah, nous sommes loin du Corrège et de son cri d'enthousiasme. Alcio San Pitor, devant Raphaël, bien loin même de Carpo, le grand statuaire attardé parmi nous, qui, souffrant déjà du mal dont il devait mourir en quittant les galeries du Louvre, jetait aux prisonniers de Michel-Ange la rose de sa boutonnière avec un baiser. Les fonds qui manquent le plus, c'est l'admiration. L'admiration ressort indispensable. Qui admire est tenté d'égaler, de surpasser. Au fait, je demande pardon au lecteur de cette homélie. Je ne voulais que lui conter une anecdote à laquelle prête un regain d'actualité le récent anniversaire de Victor Hugo. Un cri d'admiration poussé loin d'ici, voilà longtemps. La scène est à deux personnages. L'un est le maître lui-même et l'autre un bien vieil ami que j'ai nommé tout à l'heure. Donc, en septembre 1843, ce bien ami descendait à cheval, rayonnant de jeunesse, un des sentiers rocheux des Hautes-Pyrénées. Il allait, tranquille au soleil, abandonnant sa chevelure aux vives caresses de l'air. Un piéton montait la côte au même instant, un peu courbé, quoique dans la force de l'âge, le chapeau sur les yeux. Tout à coup, soit excès de chaleur, soit fatigue, soit pour toute autre cause, il se découvrit, et le cavalier, tremblant, éperdu en reconnaissant son visage, exclama dans l'étendue ce cri retentissant « Hugo !» Hugo, c'était lui, s'arrêta, s'inclina, mais le cheval, effrayé du cri violemment réfréné, se cabra si rudement qu'il envoya son cavalier sur le sol et s'enfuit. Mon homme, désarçonné, meurtri, se releva, salua profondément, puis interloqué, prit le parti de courir après sa monture. Il se disait, entre chaque enjambé, « Bon, le maître est ici, je le retrouverai bien. » Il le retrouva, en effet, le soir même, assis et causant comme un personnage naturel chez la marchande de tabac du village. Il n'osa l'interrompre, songea, oh, ben, demain matin j'irai le voir. Et pendant la nuit, il eut des songes merveilleux où Hugo lui proposait sa collaboration et l'appelait mon cher. Hélas, le lendemain, Hugo était parti. Un message arrivé de la veille l'avait rappelé en toute hâte. Ce fut pour mon homme un désappointement si amer qu'il demanda toute la journée des consolations au vin d'Espagne, et le soir, n'ayant obtenu qu'une recrudescence de mélancolie, s'alla glisser dans un torrent qui cascadait par là. En résumé, ajoute le héros de cette épopée, vous savez qu'autrefois, en arrivant à Lyon, j'ai traversé le Rhône à belle brassée pour un maigre pari. Quand on est nageur à ce point, on nage malgré soi le lendemain matin. Je m'éveillais dans mon lit d'auberge. Assurément, je n'engage personne à suivre cet hyperbolique exemple où s'affirme trop clairement l'influence du Malaga sur un cerveau gentiment fêlé au préalable. C'est égal, cela sent bon, l'enthousiasme et l'amour du beau. Tout excès dévotieux est à mon goût préférable au dénigrement en face d'un génie unique depuis les prophètes et pour l'occasion duquel il a fallu l'effort de 1800 ans. Quant à moi, si j'avais à choisir entre le danger de la noyade et le métier de certains laids bossus qui, après avoir à genoux et roulant des yeux de crapaud extatique, baisaient le pupitre du maître à Guernesey, essaient à cette heure de le blaguer dans les journaux, où cette besogne est lucrative, on me verrait rapide courir à la rivière. Un peu d'enthousiasme et d'idéal, mes frères. Admirons, aimons, travaillons, avant qu'on sorte. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen.